Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand itinérants et résidents de Longueuil s'écrivent pour mieux se comprendre, un texte de Marcou Fortier, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Les banlieusards sont sous le choc. On se croirait à Montréal, disent-ils. Des campements de personnes sans-abri poussent un peu partout en ville. À Longueuil, un projet inédit se met en branle pour favoriser la cohabitation entre les résidents et le nombre grandissant de personnes itinérantes. Un organisme local a organisé un échange épistolaire entre des gens qui vivent dans la rue et des citoyens qui ont un toit sur la tête. L'initiative donne des résultats. Les personnes sans-abri se sont senties entendues, respectées, traitées comme des humains et non comme des déchets. Et les citoyens domiciliés ont pu expliquer leur désarroi de voir apparaître des gens mal pris qui errent le jour et dorment dans des tentes ou derrière des bâtiments publics au coin de la rue près de chez eux. On cherchait une façon de créer des liens entre les personnes domiciliées et celles qui sont en situation d'itinérance. C'est ce que permet la correspondance. Elle met en relation des gens qui autrement ne se seraient peut-être jamais parlé, dit Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil, OPPL. L'organisme a lancé au début de l'année une vaste consultation visant à améliorer la cohabitation sociale sur fond de crise de l'itinérance. Le Devoir a parlé de cette crise au cours des derniers mois. L'explosion des prix du logement et du coût de la vie a jeté à la rue des dizaines de personnes à Longueuil et dans les environs. La présence des personnes sans-abri entraîne des frictions avec les résidents. La crise a même pris une tournure violente en mai 2025, quand un automobiliste a foncé sur une femme qui venait de planter sa tente dans un quartier résidentiel de Brossard. Nous vivons dans les mêmes rues, les mêmes quartiers que vous. Nous ne sommes pas invisibles, même si parfois on a l'impression que la population souhaiterait que nous le soyons, a écrit un groupe de 5 personnes itinérantes âgées de 45 à 68 ans. Ce que nous souhaitons, c'est être vus pour ce que nous sommes, des personnes, pas comme des déchets, ni des problèmes, ni des dangers publics, ajoute la lettre, rédigée après un atelier de 3 heures avec des intervenantes qui ont aidé les personnes sans-abri à articuler leurs pensées. Un combat quotidien. Ces représentants de la communauté itinérante ont été recrutés au refuge La Halte du Coin à Longueuil. Ils ont pris part à ces correspondances sur une base volontaire. Ces pensionnaires ont raconté dans leurs mots les difficultés insoupçonnées de la vie sans domicile. Dormir, se laver, manger, trouver un abri, ou simplement aller aux toilettes, tout est un combat, explique-t-il. L'insécurité dans la rue, ça rend malade. On est tout le temps anxieux et notre cerveau ne s'arrête jamais, écrit le groupe de sans-abri. Les espaces publics nous sont interdits. Les toilettes des restaurants nous sont refusées. Partout, on nous regarde de travers, dans les centres d'achat, les transports et la rue. Il y a des jours où l'on vit tant de violences verbales, psychologiques, physiques et parfois même sexuelles qu'un simple regard méprisant peut être la goutte de trop, ajoute-t-il, pour expliquer leur manière parfois brusque. Ce dont ils ont besoin, la base. En hiver, de la chaleur, et pas seulement la nuit, un endroit où passer leur journée, où se reposer, où entreposer ce qu'ils possèdent. La halte répit aménagée dans une roulotte, chaque hiver depuis la pandémie, près du pont Jacques-Cartier, débordait toutes les nuits. il en aurait fallu deux. Avec des policiers pour prévenir la violence, les vols. Mais encore, les itinérants ont besoin de toilettes propres, chauffées. Tout le monde se souvient de Raphaël André, décédé à l'hiver 2021 dans une toilette chimique à Montréal, pendant un couvre-feu décrété lors de la pandémie. Et aussi, une carte d'accès aux autobus pour les visites chez le médecin, dans les points de services sociaux, à l'épicerie. On ne veut pas être déraciné de notre ville. C'est ici qu'on a nos repères, nos liens et notre monde. On ne veut pas être exclu, ni barré des ressources, ni forcé de nous cacher pour vivre. On veut juste pouvoir dormir et avoir des ressources au moment où nous avons besoin d'aide, écrivent-ils. Citoyens embarrassés. 5 citoyennes, qui habitent près de l'ancien campement de la rue Bourassa, à Longueuil, ont été sélectionnées pour prendre part à ces échanges épistolaires. Des représentants de la police, des services sociaux, de la santé publique, du réseau de transport et de la ville de Longueuil ont aussi entretenu une correspondance avec les personnes en situation d'itinérance. Ces personnes domiciliées ont été émues par chaque histoire de concitoyens sans abri. Vos mots nous ont fait ressentir toute la lourdeur que vous portez chaque jour, ont-elles écrit. Ces citoyennes évoquent leur compassion mêlée de malaise et leur empathie parfois figée dans l'inaction. Parfois, je vais changer de rue parce que j'ai l'impression de devoir aider sans nécessairement avoir la capacité d'y parvenir pour tout le monde. Je trouve ça tellement injuste. J'ai tellement d'empathie. En même temps, ça me fâche d'être impuissante à raconter une des résidentes. Échange d'empathie. De leur côté, les représentants des institutions, police, services sociaux, etc., ont validé les sentiments des personnes itinérantes qu'ils côtoient chaque jour. Et ils ont pris acte de la dureté de la vie dans la rue. Ces intervenants reconnaissent que tout prend du temps, parfois trop de temps. C'est compliqué, organiser des services pour les personnes de la rue. Les ressources sont limitées. La bureaucratie est lourde. Les préjugés restent forts dans la population. La cohabitation sociale est tendue, comme vous l'avez dit. Nous sommes conscients que vos conditions de vie, souvent marquées par l'incertitude et la lutte quotidienne, peuvent influencer votre humeur et rendre plus difficile la gestion de vos émotions. Mais la désorganisation, les cris et un état d'intoxication peuvent générer de l'inquiétude dans la population. Les personnes itinérantes insistent pour être représentées dans les lieux de pouvoir. Elles veulent participer aux décisions qui les concernent. Ça serait un pas important pour reprendre le contrôle de leur vie. En attendant, elles ont trouvé un peu d'empathie et de réconfort dans ces échanges de lettres. C'était « Quand itinérants et résidents de Longueuil s'écrivent pour mieux se comprendre », un texte de Marco Fortier, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.
L'intelligence artificielle provoque une envolée des émissions de GES des GAFAM. Un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. 4 géants du numérique ont vu les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités augmenter de 150% dans les dernières années en raison du développement de l'intelligence artificielle, selon un récent rapport d'organisation qui relève des Nations Unies. Amazon, Microsoft, Alphabet, Google, et Meta, Facebook, ont vu leurs émissions opérationnelles augmenter de 150% en moyenne depuis 2020, selon le rapport produit par l'Union internationale des télécommunications, UIT, et la World Benchmarking Alliance. C'est Amazon qui a enregistré la plus forte hausse de ses émissions opérationnelles en 2023, soit 182 % par rapport aux trois années précédentes. Microsoft suit avec une augmentation de 155 % et viennent ensuite Meta avec une hausse de 145 % et Alphabet avec un bond de 138 % sur la même période. Cette augmentation de l'énergie produite ou achetée, connue sous le nom d'émissions de portée 1 et 2, souligne le besoin urgent de gérer l'impact environnemental de l'IA, peut-on lire dans le rapport. Les portées 1, 2 et 3 sont des catégories qui permettent de classer les différentes sources de gaz à effet de serre d'une entreprise. La portée 1 fait référence aux émissions produites par l'entreprise elle-même. La portée 2, les émissions générées par l'électricité qu'elle achète. Et enfin, la portée 3 concerne les émissions produites dans la chaîne de valeur de l'entreprise. L'équivalent de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili combinés. Le rapport « Verdir les entreprises numériques », suivi des émissions et des engagements climatiques, qui en est à sa quatrième édition, suit les émissions de gaz à effet de serre, GES, la consommation d'énergie et les engagements climatiques de 200 grandes entreprises numériques. Les auteurs de l'étude ont été en mesure de comptabiliser le bilan carbone de 166 entreprises sur 200. Au total, il est de 297 millions de tonnes d'équivalent de CO2. L'empreinte combinée de ces 166 entreprises de la technologie représente désormais environ 0,8% de l'ensemble des émissions mondiales liées à l'énergie, soit l'équivalent des émissions annuelles combinées de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili. À mesure que l'expansion de l'IA se poursuit, la demande énergétique accrue pourrait exercer une pression sur les infrastructures énergétiques existantes et compromettre les objectifs de transition énergétique, prévient le rapport. L'IA va dépasser le Japon en consommation. La consommation d'électricité des centres de données dans le monde augmente de 12 % par an depuis 2017, soit quatre fois plus rapidement que la consommation totale d'électricité selon le rapport publié au début du mois de juin 2025. La consommation mondiale d'électricité des centres de données a atteint 415 TWh en 2024, soit 1,5 % de la consommation mondiale, peut-on lire dans le rapport, où les auteurs citent une récente étude de l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Selon les données de l'AIE, les États-Unis sont les premiers consommateurs au monde d'électricité pour les centres de données, avec 45 % du 415 TWh, suivi de la Chine, avec 25 % et de l'Europe, avec 15 %. Si ces chiffres incluent tous les types de centres de données, le sous-ensemble croissant de centres de données axés sur l'IA est particulièrement énergivore. Les centres de données axés sur l'IA peuvent consommer autant d'électricité que les fonderies d'aluminium, souligne le rapport. L'AEI prévoit que d'ici 2030, la consommation mondiale d'électricité des centres de données fera plus que doubler pour atteindre 945 TWh, dépassant ainsi la consommation d'électricité actuelle du Japon. À eux seuls, les États-Unis consommeront plus d'énergie pour leurs centres de données que pour la production de biens à forte intensité énergétique, par exemple l'acier et le ciment, selon le rapport onusien. Faire attention à l'industrie numérique au complet. Au-delà de la consommation d'énergie des centres de données de l'IA, le rapport de l'Union internationale des télécommunications, UIT, et de la World Benchmarking Alliance met en garde contre l'empreinte environnementale grandissante de l'économie numérique. des émissions de gaz à effet de serre, GES, à l'épuisement des matières premières, en passant par l'augmentation de la consommation d'énergie et d'eau, la pollution et l'accumulation de déchets électroniques, l'expansion du secteur pose des défis en matière de durabilité environnementale. Il est essentiel de s'attaquer à ces impacts pour garantir que la révolution numérique soutienne plutôt qu'elle ne compromette les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Même si les émissions provenant de l'IA continuent d'augmenter, le rapport souligne que de nombreuses entreprises technologiques prendraient des engagements pour diminuer leur empreinte. Ainsi, près de la moitié des entreprises évaluées se sont engagées à atteindre des émissions nettes nulles, 41 d'entre elles visant 2050 et 51 visant des échéances plus rapprochées. Les autres tendances observées montrent une légère tendance pour les énergies renouvelables. Selon l'Union internationale des télécommunications, 23 entreprises fonctionnaient avec 100% d'énergie renouvelable en 2023 contre 16 en 2022. C'était « L'intelligence artificielle provoque une envolée des émissions de gaz à effet de serre des GAFAM », un texte de Stéphane Blais de la presse canadienne paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir.
Un appel pressant à la concertation. Un texte de Brian Miles, paru le 22 juillet 2025 dans Le Devoir. Le campement de la rue Notre-Dame bénéficie d'un quatrième sursis de démantèlement devant la Cour supérieure jusqu'au 27 août et peut-être plus. Sa présence pose des questions pressantes sur la prise en charge de l'itinérance, véritable crise humanitaire d'allure perpétuelle. Tant et aussi longtemps que Montréal et Québec ne trouveront pas de solution durable, l'éviction ne sera pas envisageable, prévient la Cour supérieure. L'administration Plante n'est pas du tout réputée pour son intolérance ni son insensibilité aux questions progressistes. Elle s'est tout de même rangée du côté du ministère des Transports du Québec, propriétaire des terrains où est installé le campement de la rue Notre-Dame, afin d'exiger son démantèlement depuis décembre 2024. L'éviction constitue une solution de dernier recours, appliquée lorsque l'addition des risques devient insupportable. Risque d'incendie, de violence, de viol même. La vie dans un campement n'a rien de l'idylle communautaire. Près de 60% des personnes en situation d'itinérance éprouvent des problèmes de santé mentale et plus de la moitié sont aux prises avec des problèmes de dépendance. Du point de vue des travailleurs communautaires et des itinérants qui s'y accrochent avec l'énergie du désespoir, les campements ont valeur de relative stabilité à défaut d'un véritable toit. C'est aussi l'avis de l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM, qui a jeté un pavé dans la mare récemment en recommandant un changement d'approche sur les campements. Plutôt que de les démanteler, la Ville de Montréal devrait les tolérer et ajouter des services autour, toilettes publiques, espaces de rangement, poubelles, accès à de l'eau potable. Partant du principe que les sans-abri sont des citoyens à part entière, bénéficiant des mêmes droits que les Montréalais détenteurs d'un titre de propriété ou d'un bail, l'OCPM milite pour la tolérance et l'empathie. Le démantèlement ne fait que déplacer le problème et aggraver la vulnérabilité des itinérants qui n'ont nulle part où aller. Peut-on vraiment les mettre « dehors de dehors » pour reprendre l'expression de Julien Montreuil, directeur général de l'Anonyme? Tant que la crise du logement fera ses ravages, les campements surgiront ici et là, tel un rappel gênant de notre impuissance collective. C'est bien là l'une des forces du rapport de l'OCPM qui nous rappelle l'importance du logement abordable comme pilier de la stratégie de lutte contre l'itinérance. Le rapport n'est pas exempt de prêchis-prêchats et il est certainement très dur à l'égard des lacunes dans la gouvernance et le leadership de l'administration municipale. Le responsable de l'itinérance au comité exécutif, Robert Baudry, a d'ailleurs qualifié de « moche » les conclusions selon lesquelles la Ville n'en fait pas assez. « Mais on met notre orgueil de côté. On va arrêter d'être toujours sur le volet des compétences et arriver avec des actions qui dépendent de nos compétences, a-t-il dit. En prenant fait et cause pour les sans-abri, non sans éloquence et conviction, l'OCPM perd à l'occasion son sens de la mesure. Soulignons au passage que les citoyens et les commerçants incommodés par la consommation de drogue à air ouverte et les incivilités n'ont pas besoin d'une séance de sensibilisation à l'égard de l'itinérance, comme le suggère l'OCPM. Ils veulent retrouver leurs terrasses sans excréments humains et laisser leurs enfants marcher jusqu'à l'école sans crainte pour leur sécurité. La cohabitation et le vivre ensemble ne peuvent pas toujours retomber dans leur cours au risque d'un délitement social. Nous verrons certainement ce ras-le-bol citoyen ressurgir lors de la campagne électorale municipale, enraciné dans un sentiment d'exaspération et d'impuissance plus complexe qu'une simple expression du syndrome du « pas dans ma cour ». L'OCPM et la décision toute fraîche de la Cour supérieure nous ramènent cependant au cœur du problème. En l'absence d'une solution de rechange, comment peut-on imaginer que le démantèlement des campements produira les effets escomptés sur la sécurité et la cohabitation? L'OCPM et la Cour supérieure convergent, chacun à sa manière, pour exiger un dialogue et l'élaboration d'une stratégie cohérente entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, en lieu et place de la désorganisation et du travail en vase clos observé jusqu'ici. Il y a des pistes d'action immédiates dans le rapport de l'OCPM pour accroître la clarté et l'obligation réditionnelle des acteurs responsables de la lutte contre l'itinérance. L'administration municipale peut faire mieux en matière de gouvernance, mais les lacunes dans le financement des ressources et le recrutement des travailleurs spécialisés ne sont pas de sa faute. Le véritable chef d'orchestre de la lutte contre l'itinérance devrait venir de Québec, où les actions à la pièce l'emportent, hélas, sur la vision stratégique. L'itinérance connaîtrait enfin un recul si Montréal, Québec et Ottawa agissaient de concert sur ces trois priorités: logement, logement et logement. C'était un appel pressant à la concertation. Un texte de Brian Miles, paru le 22 juillet 2025 dans Le Devoir.
Santé mentale en Colombie-Britannique. Les organismes communautaires en première ligne. Un texte de Susan Lienhart, paru le 28 mai 2025 dans La Source. Le mois de la santé mentale, en mai, met en lumière les stigmates persistants, les défis d'accès aux soins et la précarité du financement des organismes communautaires portant en première ligne. À l'occasion de la Semaine de la santé mentale du 5 au 11 mai, l'Association canadienne pour la santé mentale, ACSM, a invité chacun à faire tomber le masque, c'est-à-dire briser le tabou entourant l'entretien de sa santé mentale. Mais discuter de nos angoisses et nos émotions et passer le cap de consulter un professionnel de la santé semble parfois être aussi difficile que de gravir une montagne. Traumatismes, finances et manque de services sont autant de freins à l'accès aux soins. Face à ce constat, les organismes communautaires constituent les premières lignes d'écoute pour déceler les besoins et y répondre, mais peinent à assurer la pérennité de leurs services. Le coût des consultations, un premier frein. À Vancouver, l'équipe d'intervention sociale de la Boussole accompagne en français des personnes en situation de précarité. Lors de ce suivi personnalisé, des troubles mentaux peuvent être identifiés, qu'ils soient exprimés ou non. Notre équipe est en première ligne pour déceler les signes de détresse. La proximité avec les bénéficiaires va permettre de recevoir certains signaux d'alerte, un repli sur soi, un changement de comportement ou de la colère. Et elle permet aussi un cadre sûr pour qu'ils en parlent en toute confiance, souligne Mallory Fabre, gestionnaire des services sanitaires et sociaux et ancienne intervenante sociale à La Boussole. Face à ces situations, les membres de La Boussole proposent diverses ressources pour se soigner. Notre rôle est aussi de les accompagner dans leur démarche de recherche d'un psychologue pour démystifier le recours aux soins en santé mentale, ajoute la gestionnaire. L'organisme assure aussi des séances de thérapie à prix variable, entre 2 $ et 52 $ par rendez-vous, en fonction des revenus annuels du bénéficiaire. Actuellement, environ 15 personnes en bénéficient, soit la capacité maximale. Lorsque le service est complet, la boussole oriente vers d'autres organismes, non sans difficulté puisque les professionnels francophones se font rares en Colombie-Britannique et le prix des consultations est juste inaccessible pour beaucoup de nos bénéficiaires, souligne-t-elle. Ce service, comme les ateliers d'art-thérapie, est menacé chaque année faute de budget attitré, dépendant de subventions qui peuvent cesser à la fin de l'année fiscale en mars. C'est une épée de Damoclès sur la tête des bénéficiaires, pose lourdement Mallory Fabre. Une thérapie peut parfois durer plusieurs années. Plus de 3 600 lits de rétablissement. Dans son rapport publié en novembre dernier, l'état de la santé mentale au Canada 2024, la CSM note que les provinces consacrent en moyenne 6,3% de leurs dépenses globales en santé à la santé mentale, et elle recommande de fixer la barre à 12% à l'image de certains pays européens. L'ouverture de 35 centres Foundry est prévue d'ici 2028 afin d'offrir des services gratuits aux jeunes de 12 à 24 ans. Le rapport de la CSM indique que la Colombie-Britannique fait face à des problématiques particulières, comme celle du plus haut taux de décès lié à la consommation d'opioïdes ainsi qu'un taux d'hospitalisation attribuable à une consommation d'alcool plus élevée que la moyenne nationale. En raison de la situation géographique de ces bureaux au cœur du Downtown East Side, l'équipe de la boussole est formée à l'utilisation de la naloxone en cas de surdose. La prise de substances, l'itinérance et les troubles de santé mentale s'entrecroisent. C'est pour ça que je dis souvent que nos intervenantes sociales sont de vrais couteaux suisses, s'exclame Mallory Fabre. Parmi les recommandations adressées au gouvernement fédéral, la CSM souligne le besoin de financement des organismes communautaires, qu'elle juge indispensable à la prévention et à l'orientation vers des soins en santé mentale. Pour du soutien en santé mentale en français en Colombie-Britannique, consultez le site laboussole.ca. C'était Santé mentale en Colombie-Britannique, les organismes communautaires en première ligne. Un texte de Suzanne Lienhardt, paru le 28 mai 2025 dans La Source.